Bonjour Jean-Louis Dessalles, on est extrêmement content de pouvoir vous accueillir parmi nous dans ce podcast aujourd'hui. Donc vous êtes informaticien, vous travaillez aussi avec de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous faites en fait?
Bonjour Christophe Poli, je suis ravi d'être ici, merci pour l'invitation. Donc oui, mon nom est Jean-Louis Dessalles, j'ai fait toute ma carrière à l'école des télécoms, donc Télécom Paris, qui maintenant fait partie de l'Institut Polytechnique de Paris, qui est à Palaiseau, avec l'école Polytechnique et plusieurs autres écoles. Et voilà, donc je travaille sur l'intelligence artificielle depuis longtemps, ce qui fait que c'était aussi le cas à une époque où c'était moins à la mode. Et maintenant, nous sommes très nombreux. Je me souviens de l'époque où j'étais le seul à officiellement dire que je travaillais en intelligence artificielle à l'école des télécoms. Voilà. Bon, voilà. Mais alors, j'ai une spécificité, c'est que j'utilise l'IA comme un outil, surtout pour comprendre l'intelligence naturelle. Donc, c'est un peu ma caractéristique et ce que j'ai fait, parce que j'ai toujours joui d'une infinie liberté pour définir ma recherche. Et j'en ai usé et abusé, donc ce qui m'a permis de m'intéresser à des questions à la fois intéressantes et fondamentales.
Donc là, vous travaillez en même temps sur l'intelligence artificielle, sur l'intelligence humaine. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ou
Ah
est-ce
oui.
qu'elles sont...
Ah oui. C'est même. Elles ont tendance à diverger en ce moment, hein. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle que l'on connaît maintenant s'éloigne beaucoup par ses méthodes de l'intelligence humaine. En revanche, elle arrive assez bien à limiter, mais elle limite à la surface, mais pas dans les mécanismes. Donc voilà, moi je m'intéresse beaucoup aux mécanismes de l'intelligence humaine, avec toujours le souci de les reproduire dans la machine. Mais actuellement, les mécanismes utilisés en IA sont très différents. Ils sont à base de statistiques, quasiment exclusivement. Et voilà, l'intelligence humaine est beaucoup plus efficace, ne serait-ce que parce qu'elle travaille avec beaucoup moins de données. Donc en fait, c'est l'accumulation des données qui permet à l'IA de faire croire qu'elle est, sur certains domaines, aussi intelligente, parfois enfin, plus efficace que l'être humain, mais c'est grâce à en imite c'est une intelligence d'imitation. Elle imite toutes les données, toute l'intelligence qui a été cristallisée dans les textes, notamment, je pense, pour les outils de génération comme ChatGPT ou autre. On peut penser aussi, alors, la quantité gigantesque de données associées, par exemple, à un diagnostic pour ce qui est de la radiologie. Tout ça, c'est une intelligence humaine en boîte. Parfois, la machine arrive, parce qu'elle fait des bonnes statistiques, à se débrouiller toute seule, plus ou moins. Enfin voilà. Donc on a des belles choses. Donc je pense par exemple à ces outils d'aide à la biologie là, pour le AlphaFold là, qui permet de prédire la structure en trois dimensions d'une protéine. Alors, c'est vrai qu'on l'a amorcé avec beaucoup d'exemples, enfin, ceux qu'on avait, les exemples qu'on avait qui avaient été élucidés grâce à des techniques de cristallographie. Mais quand même, là, il y a une prouesse assez incroyable de la machine qui arrive à extrapoler tout ça.
Donc là, c'est vrai que l'intelligence du coup humaine et l'intelligence artificielle sont assez différentes. Pourtant, quand on regarde un peu dans les mécanismes, moi, de ce que j'ai vu, l'intelligence artificielle repose sur des réseaux de neurones et on pourrait se dire, les neurones, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le cerveau.
Oui, c'est une métaphore, hein.
C'est une métaphore.
Qu'est-ce qu'un neurone dans un réseau neuronal artificiel? C'est un emplacement en mémoire, hein. D'ailleurs, il n'y a pas du tout de neurone au sens physique, hein. Tout cela est simulé, c'est des emplacements mémoire dans la machine et qui sont utilisés par un programme. Mais c'est une métaphore, et c'est une métaphore qui a vraiment ses limites, c'est-à-dire que quand on regarde les vrais neurones, ils ne fonctionnent pas comme ça. Enfin, un neurone isolé, on peut dire, il fait la somme de ses entrées, la compare à un seuil, etc. Mais les collectifs de neurones, notamment dans le cortex, alors je suis pas neuroscientifique, mais bon, comme je suis un peu à cheval sur plusieurs disciplines, je m'en renseigne. Et j'ai un peu travaillé sur les corrélats de la conscience, corrélats matériels neuronaux de la conscience. Et notamment, on peut penser que la conscience est liée à une synchronisation neuronale. Donc, dans le cortex, c'est vraiment la synchronisation des neurones qui porte l'information, beaucoup plus que l'activité des neurones individuels. Alors que dans un réseau neuronal artificiel, c'est quand même beaucoup de la. Voilà, on a des interprétations géométriques qui sont intéressantes, hein,
Ouais.
qui sont bon, ça fait voilà, ça crée des espaces géométriques au sein desquels on met des finalement des significations et à coup de statistiques. On savait le faire avant statistique, mais à une échelle bien moindre. On avait des techniques de statistique qui arrivaient à donner une représentation intelligible de données. Bon, je peux donner un titre. Par exemple, un exemple, c'est l'analyse en composante principale qui arrivait à donner une image en deux ou trois dimensions de données qui a été à beaucoup de dimensions. Eh bien, les réseaux de neurones font, ça fait partie des choses qui savent faire, mais alors puissance 10, hein, c'est assez incroyable. Ça reste de la statistique. Un enfant ne fait pas ça. Un enfant apprend sa langue. Je parle de langue parce que je me suis pas mal intéressé au langage. Voilà, je peux vous donner un exemple. Si on dit à un enfant, on essaie de lui apprendre le latin, on lui dit, ben voilà, il y a l'accusatif en latin et l'accusatif de Rosa, c'est Rosam. Bon. Puis après, on lui demande, l'accusatif de Vita, bon, il va dire Vitam. Quand un enfant fait ça, il fait une prouesse qu'un réseau de neurones ne peut faire qu'en ayant accumulé une quantité gigantesque de données. Un enfant, non, il fait ça comme il respire. Pourquoi? Parce qu'il fait une analogie de structure. Il arrive à apparier, il voit ce qui varie. Le A devient âme. Il a compris qu'il y avait un A aussi dans le deuxième mot, que c'était le A terminal. Bon, là, il n'y en avait qu'un, mais. Et il va faire une analogie qui va minimiser la complexité de la transformation, en gros. Donc, il fait des calculs. Le cerveau de l'enfant fait des calculs. Il minimise quelque chose. Et c'est absolument pas ce que font les réseaux de neurones. Donc, voilà, voilà un exemple. C'est comme ça qu'un enfant arrive à apprendre des mots avec très peu de données. Il faut savoir qu'un enfant apprend entre 5 et 10 mots nouveaux par jour jusqu'à l'adolescence. Et il y a une loi de fréquence des mots qui fait qu'on est certain que certains mots, l'enfant les a entendus une fois, voire deux, dans sa vie. Et il les connaît. Donc, ce n'est pas de la statistique. Voilà, c'est vraiment
Et
autre chose.
juste en les ayant entendus une fois, il arrivait à en déduire le sens et à l'enregistrer comme ça.
Oui, parce que encore une fois, il va l'entendre dans un contexte et il va faire, comme pour Vita Vitam, il va faire une analyse de structure du contexte. Il va dire qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui a changé, et il va en déduire le sens. Et parfois, on se trompe. Les enfants font des erreurs très rares. Moi, j'ai noté les erreurs de mes enfants. J'ai un petit corpus comme ça. Elles sont rares. Elles sont rares, ces erreurs. Et elles sont souvent, on les considère comme mignonnes. Voilà. Et même, enfin voilà, parfois, même les adultes ont mal compris le sens d'un mot rare. Par exemple, de rechef, peu de gens savent ce que ça veut dire de nouveau. Tout le monde pense que ça veut dire tout de suite. Et c'est une erreur, en fait. Et comme ça, parce qu'on l'a entendu qu'une fois, deux fois, et que on n'avait pas assez d'éléments de contexte pour bien lever l'ambiguïté. Voilà. Mais pour l'immense majorité des mots, on les attrape en une fois.
Mais c'est vrai que ça, j'avais tendance à le remarquer de manière assez intuitive parce que, alors, pour information, je suis ingénieur en informatique, donc ça reste aussi le domaine dans lequel je travaille. Et c'est vrai que j'avais remarqué ça, cette différence comme quoi l'humain a tendance à apprendre avec très très peu d'exemples. Si on me montre un animal et qu'on me dit, bah voilà, ça c'est cette race, en fait, je saurais très rapidement l'identifier, alors que pour apprendre ça, un programme pour faire de la reconnaissance d'image, c'est un calvaire. Il faut un lot de données assez gros, il faut des algorithmes assez poussés. Alors qu'un enfant, quand il naît, alors peut-être que je me trompe parce que là, on va un petit peu au-delà de mes connaissances, mais on ne naît pas forcément avec un logiciel déjà intégré. Ultra complet sur de l'analyse comme ça. Pourquoi est-ce que chez l'humain, ça a tendance à être instinctif alors que sur une machine, on ne sait pas le faire? Pourquoi il y a encore ce gap assez important?
Alors, je pense que l'humain naît avec beaucoup de biais, beaucoup, on appelle ça des biais, mais c'est un très mauvais mot, beaucoup de mécanismes et beaucoup d'a priori. Par exemple, on a montré que les enfants avaient un a priori sur ce qui bouge, ce qui ne bouge pas. Quand quelque chose bouge et touche quelque chose d'autre et que cette deuxième chose bouge, on montre qu'il y a quelque chose comme la causalité que les enfants très très jeunes, qui têtent encore, arrivent à repérer. Donc il y a un biais. La causalité est un mécanisme que les enfants, enfin on pourrait presque dire qu'ils naissent avec, même si ça se révèle un peu après. Quand on montre quelque chose, quand on montre un chien et qu'on dit dog ou chien, l'enfant comprend qu'on a montré l'animal et pas la queue de l'animal, pas le bout de l'oreille. Il y a des a priori comme ça. Hein, donc, et il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Il y a le linguiste Noam Chomsky qui a montré que pour ce qui est de l'apprentissage de la langue, l'enfant avait comme cela beaucoup de biais qui lui permettent d'apprendre la langue de manière terriblement efficace. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est une sacrée différence. Pour ce qui est des exemples, d'ailleurs, au début, si on montre un chien à un enfant, certains enfants pensent que tout animal est un chien. Et après, si on dit non, ça c'est un chat, ou même sans dire non, on dit ça c'est un chat, assez spontanément, il va restreindre la catégorie chien en prenant uniquement le prototype qu'il a vu. Et comment il fait ça? Il fait ça avec un mécanisme de contraste. C'est-à-dire que quand on lui présente un deuxième exemple, il va se dire, mais, ah ouais, non, mais ça ressemble beaucoup au précédent, là, cet animal-là, il ressemble beaucoup à ce qu'on a appelé un chien. Quand même, c'est plutôt différent. Et il va noter les différences. Et si par hasard, on lui dit chat à ce moment-là, il va dire, OK, ah oui, bon, mais je vais créer un nouveau prototype. Et ça, c'est de manière en un coup. Pas du tout de manière statistique, uniquement parce qu'il a vu des ressemblances et des différences. Les systèmes statistiques ne regardent que les ressemblances. Et pour avoir des différences, il va falloir, de manière supervisée, lui dire, avec une accumulation, il va falloir énormément de données pour voir la frontière entre chien et chat. Alors que pour un enfant, il va spontanément, en faisant la différence, tomber sur les quelques di dimensions qui sont discriminantes. Voilà, donc ça, c'est un mécanisme que les réseaux de neurones n'ont pas. Alors pourquoi les réseaux de neurones n'ont pas? Bah, j'en sais rien. Moi, j'ai mis un doctorant là-dessus. Bon, c'est beaucoup moins facile qu'on ne croit, mais voilà, il n'y a pas d'impossibilité de principe. Il se trouve qu'actuellement, les mécanismes, enfin, vous savez, c'est le principe du réverbère, hein. Ça marche très très bien de faire des réseaux de neurones comme ils sont maintenant, donc tout le monde fait la même chose. Voilà. Donc, mais moi, je crois beaucoup à cette idée de contraste et de différence pour augmenter les réseaux de neurones actuels pour qu'ils travaillent avec beaucoup moins de données, un peu comme les enfants.
Pour revenir un petit peu sur l'aspect du langage, donc comme on l'a dit, les réseaux de neurones fonctionnent avec des statistiques. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que des outils comme ChatGPT comprend ce qu'on leur dit? Ou est-ce qu'au contraire, ça a tendance à être assez mathématique et probabiliste en fait
Ah, tout dépend du mot, enfin, de ce qu'on entend par comprendre. ChatGPT fait des opérations parfois insoupçonnées. Je vais vous donner un exemple tout de suite, mais juste pour désamorcer, si par comprendre, on inclut une idée de conscience, alors là, non, carton rouge. Il y a eu un scandale à Google avec. J'ai oublié son nom là, le chercheur là, qui avait dit que le programme, c'était pas ChatGPT, c'était Llama ou je sais plus lequel, enfin qui était sentient. Donc c'est un des nombreux mots en anglais pour dire conscient. Et après quelques jours, Google a préféré se séparer de cet employé parce que ça avait fait un scandale et on s'est dit, est-ce que. Bon, il y avait des aspects mystiques derrière. Donc non, là, pas de conscience du tout, mais du tout. Et au point que les chercheurs en IA qui disent qu'il y a de la conscience quelque part, c'est soit de la pub, soit de l'ignorance totale. Enfin, on n'a pas, on connaît quelques corrélats de la conscience. J'ai parlé de la synchronisation neuronale tout à l'heure, mais pour vous dire l'état d'ignorance dans lequel on est, c'est que prenez l'exemple de la conscience de la douleur, quelque chose, avoir mal aux dents ou mal à l'orteil. Alors l'orteil, c'est un exemple perso. Je me suis fait tomber une pelle sur l'orteil, le gros orteil, et j'ai encore un souvenir assez précis du type. Et j'ai eu mal aux dents, comme tout le monde, donc je vois très bien la différence. Et on n'a aucune idée de ce qui fait, au niveau de la synchronisation des neurones, la différence. On ne peut pas prédire que la personne a atrocement mal à l'orteil, atrocement mal aux dents, ou au contraire est en train de siroter un sirop d'amande que cette personne adore, par exemple. Et tout ça, c'est des phénomènes conscients. Hein, c'est ce qu'on appelle la conscience phénoménale. Hein, c'est lié au phénomène. Et ça peut être très fort, très intense dans les deux sens. Et ça reste des courants électriques dans un cerveau et on ne sait pas faire la différence. Donc, pour vous dire à quel point on ne sait pas du tout, on soupçonne que c'est lié à la synchronisation neuronale, mais on n'en sait pas plus. Donc, après, quand on raconte qu'un programme qui utilise des trillions de paramètres de manière extrêmement répétitive et conscient, voilà, ça ne coûte pas cher, mais ça ne rapporte rien parce que c'est un aveu d'ignorance. Un jour, il y a deux collègues qui sont arrivés dans mon bureau. Moi, je faisais autre chose, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça dans mon bureau, sans doute parce que c'est un bureau très agréable. Ils ont commencé à jouer aux échecs avec ChatGPT. Donc, il y en a un
Ok.
qui prenait ChatGPT, l'autre qui prenait un programme d'échecs. Et ils l'ont fait jouer avec le codage des joueurs d'échecs pour désigner les coups. Et on s'est aperçu, pour moi, c'est une révélation, que c'est ChatGPT-4 hein, était capable de jouer aux échecs. Et il n'est pas fait pour ça. Mais il faut savoir que dans tous les textes qu'il a ingurgités, il y a des parties d'échecs codifiées. Hein. Il y a beaucoup de textes sur les parties d'échecs. Et donc, ChatGPT est capable de jouer aux échecs. Il a fait pas mal de coups légaux qui étaient bons. Puisqu'il jouait contre un programme spécialisé. Et il a joué une trentaine de coups légaux, un peu plus même. Et à un moment, et je sais qu'il a mis un pion sur sa reine. On lui a dit, mais non, c'est pas possible. Ou pardon, il s'excuse très bien. Et il a fait un bon coup derrière. Alors, en fait, il est bon sans plus, ChatGPT, mais il n'est vraiment pas fait pour ça. Mais si on prend une version de ChatGPT, en l'occurrence, ils l'ont fait avec la précédente 3.5. Et ils l'ont entraîné sur des parties d'échecs. Donc, il a un petit peu spécialisé. Hein, et là, il a eu un niveau professionnel. C'est-à-dire que, alors, je ne connais pas très bien, mais c'est un Elo de 1600. Si vous êtes joueur d'échecs, moi, ce n'est pas mon cas. Et on m'a expliqué que ça voulait dire avoir un bon niveau.
Oui, c'est déjà pas mal.
Voilà, c'est dans les 10% meilleurs français, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu moins. Enfin, mais quand même, c'est un système qui a été entraîné sur des textes et marginalement sur des parties d'échecs. Mais à la base, il n'est pas du tout fait pour ça. Et alors, c'est intéressant parce que on le compare à un programme qui calcule. Alors, les programmes d'échecs, historiquement, étaient calculés énormément. Ils exploraient l'arbre des possibilités. Bon, après, je sais qu'il y a eu, dans la mouvance de AlphaGo, on a fait AlphaZero, qui est capable de jouer aux échecs en apprenant uniquement à faire des statistiques intelligentes et avec un apprentissage par renforcement, et il devient très bon aux échecs. On pourrait dire que là, c'est de nouveau de la statistique. Mais historiquement, et depuis les programmes qui ont battu Kasparov en 97, on a d'excellents joueurs d'échecs artificiels qui calculent. Et c'est la différence entre un programme qui calcule et un programme qui fait des statistiques. Voilà. Donc, on retrouve la même opposition. Et on peut montrer que les joueurs d'échecs qui jouent les humains font un peu les deux. Hein. C'est-à-dire que. Il faut avoir vu. Alors, Kasparov était venu à Télécom. Hein, il a joué une simultanée contre les élèves des grandes écoles. Donc, ça se passait à Télécom. Et il y avait une vidéo qui, moi, c'était très impressionnant. On le voyait. Il jouait des coups en marchant devant les différents échiquiers. Et il y a quand même un élève qui a réussi à faire un nul contre Kasparov en simultané. Voilà. Donc, c'était assez remarquable. C'était à la fin des années 90. Donc, en fait, Kasparov, pour cette performance-là, reconnaissait l'échiquier, mais en un quart de seconde. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que ferait un système comme AlphaZero, donc en reconnaissant. Mais de son aveu même, il va des joueurs d'échecs, ils explorent des possibilités, ils réfléchissent. Bon, pour les coups importants, ils réfléchissent, ils calculent. Donc, on a vraiment les deux mécanismes dans la tête d'un champion d'échecs.
Alors là, je vais changer de sujet un petit peu sans trop changer. Vous avez aussi travaillé beaucoup sur la théorie de la communication. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça consiste?
Alors, j'ai commencé ma carrière de recherche. Bon, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait de la recherche en cachette au début.
Ok, alors ça vaut le coup
cherche en
qu'on s'arrête
cachette.
un peu dessus, du coup.
Voilà. En fait, j'étais embauché à l'école des télécoms pour faire des nouvelles techniques pour l'enseignement. Donc, c'était un peu un travail d'ingénieur. Et au bout de très peu d'années, ou 2 ans, 3 ans, je me suis dit, mais bon, c'est pas de la science, ça. J'ai plus d'ambition. Mais ce qui m'intéresse en science, c'est faire un peu d'éthologie, donc étudier le comportement. Mais j'ai pas le courage d'aller en Afrique étudier les chimpanzés. Je commençais à avoir déjà fondé une famille, etc. Je me suis dit, bon,
Ouais,
et je
oui.
me souviens, j'ai eu un insight. J'étais gare Montparnasse. J'ai dit, mais j'aimerais bien étudier une espèce. Puis là, il y avait des Homo sapiens partout dans la gare. Je dis, ben, je vais étudier Homo sapiens. Et donc, j'ai fait de l'éthologie. Et je lui ai dit, mais quel est le comportement le plus remarquable, spontané, universel des êtres humains? Ben, c'est le langage. Et je me suis dit, ben, voilà, je vais étudier le langage à la manière des éthologues, c'est-à-dire le langage spontané. Et je me suis aperçu qu'il y avait très peu de littérature sur le langage spontané. On a beaucoup étudié le langage enregistré dans des conditions artificielles, dans des laboratoires, des entretiens. Et les corpus spontanés étaient très rares. Il y en avait. Et faits par des sociologues qui avaient fait vœu de ne jamais faire de théorie. Hein, ce qu'on appelait les ethnométhodologues. Alors pour moi, c'était pain béni parce que j'avais des données, mais souvent, il me manquait le contexte, il me manquait ça. Donc, j'ai commencé à travailler sur mes propres données. Et donc, ça a été mon début en recherche. Alors, évidemment, je pouvais pas, j'osais pas, c'est une autocensure. J'osais pas avouer ça à mes collègues à Télécom en disant, ouais, je fais
Ok.
ça. Mes collègues ingénieurs auraient dit, mais attends, tu t'amuses là. Alors, j'ai fait ça en cachette chez moi.
D'accord.
Et au bout de quelques temps, j'ai commencé à trouver des choses intéressantes. J'ai compris quelque chose de remarquable sur la communication humaine, qui est que nous ne communiquons spontanément. Hein, je parle bien de la conversation spontanée. Hein, c'est pas du tout ce qu'on observe dans les dialogues de théâtre, par exemple. La conversation spontanée, les gens parlent d'anomalies. On ne dit pas ce matin, je me suis lavé les dents. Bah, c'est au point que les gens répondent so what?
Ouais.
Et si on s'amuse à faire ça, au bout de quelques jours, nos meilleurs amis nous amènent à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Donc en fait, le langage, l'enjeu du langage, c'est de signaler des anomalies ou d'en parler ou de les
D'accord.
traiter. Et ce fait-là, a été noté par très peu de spécialistes du langage. Ça m'a beaucoup étonné. Je me suis demandé pourquoi. Et ceux qui l'ont compris l'ont signalé en passant. J'ai très peu de citations de gens qui disent le langage, c'est à propos d'anomalies. Et mais j'en ai quand même. Et comment expliquer ça? Je pense que c'est lié à l'hyperspécialisation de la recherche. C'est-à-dire que chacun est dans son couloir de
Oui.
nage et que le recul qu'on a des éthologues, hein, finalement, c'est la différence entre étudier les animaux dans la nature ou les étudier dans le laboratoire. Eh bien, la plupart des personnes, des académiques qui s'intéressent aux sciences du langage le font au laboratoire et ne comprennent pas, ne voient pas, n'ont pas l'approche éthologiste qui consiste à regarder la langue spontanée. Enfin, il y en a, heureusement. Hein, on trouve à qui parler quand même. Et donc, cette idée d'anomalie, ça m'a beaucoup frappé. Alors, à l'époque, je n'appelais pas ça comme ça. C'était pas encore, j'avais pas tout compris sur les anomalies, mais. J'ai commencé à noter ça et il m'a fallu pas mal d'années pour faire mon travail finalement de modélisateur, qui était bah, le graal du modélisateur, à la fin, c'est de faire des équations. À mi-chemin, c'est de faire un programme informatique capable de refaire la même chose. Ça veut dire, alors, l'objectif, c'est pas de. À l'époque, c'était pas du tout de faire des chatbots. L'objectif, c'était comme la preuve par neuf. C'est-à-dire, j'ai compris, la preuve, c'est que je suis capable de le refaire.
Ouais.
Voilà. Donc en gros, mon défi, c'était dis-moi ce que tu sais, je vais savoir ce que tu vas dire. Pour des domaines très, très circonscrits, comme repeindre des portes ou, voilà, ou savoir qui va se présenter à la prochaine élection présidentielle. Voilà, donc ça, c'est le genre de conversation qu'on peut enregistrer en famille. Et évidemment, il y a une connaissance sous-jacente. Il faut savoir qui est qui, comment manipuler un couteau à mastic, ou etc. Bon, mais si on suppose que cette connaissance, donc en matière politique, quelle est l'offre, qui sont les protagonistes. Et à ce moment-là, on fait des paris. Il faut savoir qui sera au deuxième tour c'est qu'en 2027. Donc voilà, on peut avoir ces conversations, puis la date approche, et puis on a ce genre de conversation. Donc voilà, l'idée, c'était de modéliser d'abord informatiquement et après, si possible, faire des équations. Et ce que suis arrivé à faire en partie. Voilà. Alors, je suis assez fier de moi,
Ok, ouais.
pour moi-même. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'ai pas trop perdu mon temps, même si chaque fois, je me dis, mais enfin, c'était après coup, on se dit, c'était évident, pourquoi tu ne l'as pas vu plus tôt? Ça, c'est, on a des errements assez longs. Par exemple, j'ai dit que les gens parlaient d'anomalie. Donc, en fait, il y a deux grands comportements langagiers. Ça aussi, ça a été assez peu noté par les spécialistes. Je ne sais toujours pas pourquoi. Il y a en gros le comportement narratif. Alors, il y a quand même des linguistes qui l'ont noté, qui l'ont documenté, mais ils sont tellement rares. Et pour moi, je leur voue une reconnaissance très grande parce qu'ils m'ont ouvert les yeux. Le comportement narratif est massif. Les gens peuvent faire ce qu'on appelle les tournois narratifs. C'est-à-dire, quelqu'un raconte une histoire, il m'est arrivé ça, et la deuxième personne dit, ah bah, il m'est arrivé un peu le même genre. Alors, un exemple, c'est, j'avais un tournoi narratif qui dure près de 20 minutes sur des réparations qui ont l'air anodines et pour lesquelles la facture est extrêmement salée. Voilà. Et on a tous des histoires racontées comme ça, chez le garagiste, chez le vitrier ou le réparateur de télé ou de machine à laver. Et donc, si on met les gens ne peuvent pas s'empêcher de dire, bon, il m'est arrivé ça aussi, et on est parti pour des minutes. Alors, on n'est pas tous égaux devant ça. Moi, je ne suis pas un bon narrateur, mais j'ai des amis, j'ai une amie notamment, un repas égale une histoire. Donc voilà, voilà. Alors ça, c'est le premier comportement narratif. Et l'autre, c'est le comportement qu'on a en ce moment. On n'est pas en train de raconter. Enfin, je le fais un peu, je raconte quelques histoires. Mais essentiellement, le comportement argumentatif, ce qu'on appelle la discussion. Voilà. Et c'est tout. Le reste est absolument marginal. Le fait de dire bonjour, oui, bon, d'accord, ça c'est. Mais quantitativement, il y a deux gros comportements, c'est narration et argumentation. Et les deux sont sur des anomalies. C'est-à-dire, quand je raconte une histoire, il faut qu'il y ait une anomalie, que ce soit sur un événement qui a des bonnes propriétés. Et au début, j'ai fait une erreur. J'ai cru que c'est que la probabilité, enfin l'improbabilité, arrivait à expliquer cette idée d'anomalie narrative. Un événement serait racontable s'il est improbable. Et j'y tenais. Et j'avais deux, trois exemples qui étaient des exceptions. Et puis, je me souviens d'un jour terrible où j'ai eu ce qu'on appelle une sueur froide, mais ce n'est pas une expression. J'ai compris que ce que j'avais fait était très faux. Que ce que je croyais être des exceptions, c'était plus de la moitié des cas. Et ce genre de truc, de situation où on se dit, bon, j'ai travaillé 2 ans, j'ai essayé de mettre ça en équation. Et j'ai senti vraiment quelque chose descendre le long de ma colonne vertébrale en me disant, mais non, mais c'est à jeter tout ça. Et heureusement, en même temps, pour des raisons indépendantes, j'avais travaillé sur un autre concept, qui est le concept de complexité-simplicité. C'est un concept informatique, ça. Un concept d'informatique fondamentale. C'est ce qu'on appelle, c'est pas ce que vous croyez, c'est la notion de, c'est peut-être un gros mot hein, sur ce micro, mais la notion de complexité de Kolmogorov. Alors c'est un gros mot, mais non, c'est pas un gros mot, c'est un des plus grands savants du XXe siècle, hein, Andrei Kolmogorov. Mais ça fait référence à quelque chose de très simple, c'est une notion de description minimale. C'est-à-dire vraiment, c'est comment on arrive à compacter une notion. Je vais donner un exemple pour compacter une personne. La description d'une personne, on ne va pas compacter la personne elle-même. Si on est dans le contexte de la politique française, par exemple, la personne peut-être la plus simple à décrire, c'est peut-être Emmanuel Macron. Par exemple, si vous prenez Jean-Louis Dessalles, alors c'est pas moi. J'ai découvert que j'avais un homonyme qui fait de la politique dans un canton, de la Dordogne. Ok, et il est plus long à décrire, pour l'instant. Peut-être qu'il est promis un brillant avenir, mais pour l'instant, il est beaucoup plus complexe à décrire. Il me faut une description beaucoup plus, comme je viens de le faire, il est dans un canton de la Dordogne, mais il y a beaucoup de cantons en Dordogne, et encore, c'est un des élus de ce canton, donc vous voyez, c'est pas simple. Alors qu'Emmanuel Macron, c'est le plus simple. Il y a un moyen de quantifier ça. Vous mettez politique française et puis le nom à côté sur un moteur de recherche, et vous regardez, alors il y a des moteurs de recherche qui donnent le nombre de résultats. C'est le cas de Google, c'est le cas de Bing, c'est le cas de Yahoo. Donc, vous avez le nombre de résultats, vous notez. Et à partir de ce nombre de résultats, vous en, pouvez en déduire la simplicité de la personne. Vous pouvez la quantifier. Voilà.
D'accord.
Donc, on peut arriver à faire une théorie prédictive de ce que les gens vont raconter. Alors, ils vont parler de gens simples. Donc, il vaut mieux... alors, imaginez une rencontre fortuite.
Ouais.
Vous baladez quelque part, vous rencontrez quelqu'un. Donc, je me balade à, je sais pas quoi, à 5 km de chez moi, près de mon travail, et je tombe sur un gars que j'ai connu. Je ne sais plus très bien qui c'était, parce que ce n'est pas une histoire. Si vous racontez que vous étiez au Guatemala... Au Guatemala, dans un petit village, et vous tombez sur, je ne sais pas quoi, Jean-Luc Mélenchon. Et vous dites, ah bonjour monsieur Mélenchon, ah, il était ravi qu'on le reconnût, et voilà. À ce moment-là, ça fait une bonne histoire. D'accord. Et d'où vient l'anomalie, d'où vient, alors c'est là qu'intervient l'aspect théorique qui est derrière, c'est un contraste entre la complexité de l'endroit et la simplicité de la personne. Ça va, vous me suivez?
Okay. Okay, ouais,
plus l'endroit est complexe, donc ouais. J'ai dit un petit village au Guatemala, et plus la personne est simple, j'ai pris Jean-Luc Mélenchon, il fait partie du top, je ne sais pas combien, top 10, top 20 des personnes politiques. Voilà. Donc on arrive à quantifier sa simplicité. Et plus le contraste est grand entre ces deux valeurs-là, plus c'est racontable.
D'accord, ok, voilà. Je vois.
Et donc, cette histoire d'anomalie, c'est non seulement toutes les histoires qu'on raconte sont relatives à des anomalies de ce type, mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire dès qu'il y a une anomalie de ce type, on se sent obligé de la raconter.
D'accord.
C'est un réflexe. Donc voilà, l'espèce humaine est bizarre.
Et là, voilà. Vous avez fait, du coup, vous avez essayé de pouvoir modéliser ça. Donc, quand vous dites modéliser ça, c'est modéliser les interactions humaines sur, en programme.
Dans ce cas-là, non. Alors, dans ce cas-là, je suis allé jusqu'à l'équation et c'est relatif à ce dont les gens parlent. C'est-à-dire, quels sont les événements racontables ou pas. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal.
Oui.
De quoi les gens parlent.
Ouais.
Bizarrement, d'ailleurs, les sciences du langage s'en sont assez peu préoccupées. Les gens, les collègues ont surtout regardé comment les gens parlent. Comment ils utilisent, la manière dont ils s'expriment, etc. Et en général, ce dont ils parlent est la première chose évacuée. À moi, c'est le contraire. J'ai gardé ça et j'évacue le reste. Et je me suis aperçu qu'on pouvait faire de la science là-dessus et de la science prédictive, ce qui n'est pas très fréquent en sciences humaines. C'est-à-dire qu'on a, des équations, si on veut, on peut l'implémenter dans un programme, on a des équations qui permettent de prédire le comportement des gens. Donc on a, voilà, c'est pour ça que quand je vous disais, j'étais fier de ce que j'avais fait, bah, il y a des moments, je me dis, ouais, c'est quand même pas mal d'arriver à mettre en équation le comportement des gens. Alors évidemment, c'est toujours caricatural, mais tout de même, c'est assez prédictif. Pour vous dire à quel point, là j'ai pris l'exemple de la rencontre fortuite, cette idée de simplicité, elle est câblée en nous de manière incroyable. Imaginez qu'il y a un tirage de loto qui sorte. Qui soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous n'avez pas joué. Vous entendez ça à la radio. Je vous parie que vous allez vous chercher une oreille pour dire « T'as entendu le tirage du loto ?»
Ok.
Alors que, d'un point de vue probabilité, c'est pour ça que j'ai dit que la probabilité, ça ne servait pas. D'un point de vue probabilité, le fait qu'un 2, 3, 4, 5, 6 sorte, c'est la même probabilité que n'importe quel autre tirage très ennuyeux.
Voilà. Okay.
Donc là, on est sensible à la simplicité. On voit bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est beaucoup plus simple que notre tirage.
Ouais.
Parce que si vous êtes informaticien, vous imaginez un zip idéal. On voit bien que là, c'est une suite mathématique très simple. C'est les nombres consécutifs à partir de 0. Et donc ça, conceptuellement, pour qui sait compter, c'est beaucoup plus simple. Que de mentionner tous les nombres l'un après l'autre.
Et pourquoi est-ce qu'on retrouve ça dans le cerveau humain? Est-ce que, d'une certaine manière, le monde n'est pas, entre guillemets, complexe et que, du coup, la simplicité, ce serait une sorte de d'anomalie et, du coup, le cerveau se focalise dessus parce qu'il trouve ça pas normal?
Alors, le monde est simple. Quelque chose qui est maximalement complexe, c'est par définition même, André Kolmogorov l'a montré, c'est l'aléatoire. Ouais. Le monde n'est pas aléatoire, sinon il ne serait pas intelligible et les enfants n'arriveraient pas à survivre. Le monde est simple parce qu'il est construit par la nature, hein, les feuilles se ressemblent. Il est simple aussi dans le monde technologique parce que c'est beaucoup plus simple de faire des meubles droits que des meubles tordus, pour des raisons de simplicité, de machine-outil. Voilà. Donc le monde est simple, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, les gens, ce n'est pas la simplicité, c'est la simplicité anormale. C'est-à-dire que le tirage du loto, d'habitude, il est complexe. Boring. Ennuyeux. Et le jour où 1, 2, 3, 4, 5, 6 sort, ou, alors, ça a l'air de ne pas être possible, en fait, quand la loterie sud-africaine, le 2 décembre d'il y a 3 ou 4 ans, a sorti des numéros consécutifs, donc 5, 6, 7, 8, 9 numéros complémentaires 10, là, j'ai reçu une bordée de courriels de mes anciens élèves qui tous ont eu le réflexe de me dire ah, « voilà un exemple », etc. Donc, dès qu'un tirage du loto est anormalement simple, hein, les gens en parlent. Et là, ils avaient eu le réflexe de m'envoyer un mail. Donc, c'est un acte de communication.
Pour aller aussi un petit peu sur le côté histoire, c'est vrai que donc, le fait de se raconter des histoires, c'est quelque chose aussi qui est très, très humain, qu'on fait depuis longtemps. Pourquoi est-ce que le fait de raconter des histoires, à votre avis, ça a une place aussi importante dans notre société, dans nos interactions? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui a une place au temps présent?
Alors, merci pour la question. Bravo pour la poser, parce que c'est une question à laquelle les linguistes seraient bien en peine de répondre, je crois. D'abord, je ne pense pas une seconde que ce soit un phénomène culturel.
Okay.
C'est universel.
Okay.
Pour moi, je vais dire un gros mot à la Chomsky, mais je pense que c'est biologique.
Okay. Okay.
Les enfants racontent des histoires, les adultes racontent des histoires, parfois trop, et passent énormément de temps à ça. C'est-à-dire que c'est... À raconter ou écouter des histoires, c'est plusieurs heures par jour. Enfin, c'est... Voilà. Pourquoi fait-on ça? J'ai une théorie là-dessus. Elle n'est pas venue le premier jour. Je me suis posé cette question pendant des années et il a fallu éliminer toutes les mauvaises solutions. Maintenant, j'en ai une qui semble tenir la route. Alors, si ça vous intéresse, je peux en parler. Mais ça,
on va aller
sur un tout autre chapitre,
okay.
Qui est celui de la biologie de l'évolution. Donc ça, c'est mon autre grand hobby, enfin centre d'intérêt de recherche. J'ai fait beaucoup de travail sur l'évolution. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'informaticien, c'est tellement facile à simuler sur ordinateur que facile. Encore fallait-il être là quand on a commencé à avoir des machines un peu efficaces avec un peu de mémoire. Il y a des précurseurs. Il y a des précurseurs dans les années 60. Je me demande encore comment ils ont pu concevoir ce qu'ils ont réussi à faire avec des outils informatiques à une époque où les machines n'avaient pas de mémoire, pas de puissance, mais rien.
Ouais, ouais.
Alors, 65, enfin, donc moi je suis arrivé plus tard. Et donc, une vingtaine d'années plus tard, on a commencé à avoir des outils. Et donc, en simulant l'évolution, j'ai redécouvert des phénomènes qui étaient évidemment connus des biologistes de l'évolution, mais pas en France, parce qu'on est la patrie de Lamarck, et il a fallu attendre que tous les Lamarckiens meurent ou partent à la retraite. Pour moi, j'ai vite compris que les gens qui comprenaient l'évolution étaient presque tous en Grande-Bretagne. Alors maintenant, ça s'est généralisé. Mais à l'époque, il faut imaginer que c'était en gros quelque part autour de Cambridge que les gens comprenaient la théorie de l'évolution. C'est très étonnant. Vous avez peut-être entendu des noms. Alors, celui qui a popularisé ça, c'était Richard Dawkins, avec le gène égoïste. Parfois il est un peu limite dans ce qu'il dit, mais ça m'a ouvert les yeux considérablement parce que ça correspondait à ce que j'avais dans ma machine.
Okay, est-ce qu'on peut revenir sur le gène égoïste et expliquer un petit peu
Oui, alors en gros, à l'époque, en français, on a une expression qui est l'oiseau fait un nid pour la conservation de l'espèce. Bon. Ce qui est quelque chose qui n'est absolument pas dans la théorie darwinienne. Ça n'existe que dans la vie des animaux, c'est-à-dire la mauvaise façon de vulgariser l'évolution. Et en France, on s'attache énormément à l'idée d'avantage collectif. C'est-à-dire que les animaux font quelque chose pour le bénéfice collectif. Et à un moment, des chercheurs, donc notamment William Hamilton et puis après Richard Dawkins et d'autres, beaucoup d'autres, ont compris une chose, c'était que ça correspondait à aucune logique. Et moi, j'en apercevais, alors un peu après, je suis arrivé après la bataille, mais quand je faisais mes simulations sur ordinateur, comme d'autres, je voyais très bien à quel point c'était eux qui avaient raison. C'est-à-dire que quand l'oiseau fait son nid, c'est pour élever ses enfants et, in fine, pour propager ses gènes. Alors, ce qu'on appelle les gènes en évolution, ce n'est pas tout à fait les gènes, il y a eu beaucoup de malentendus, les gènes de la biologie moléculaire, mais on n'est pas du tout, ni au niveau collectif, ni même au niveau de l'individu. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, l'individu, il va mourir, il va pas se propager du tout. Si on ramène ça à la question du langage, c'est de dire pourquoi on raconte des histoires et en quoi la bonne question à poser, c'est en quoi, si c'est biologique, hein, ce que je crois profondément, en quoi le fait de raconter des histoires a permis à nos ancêtres d'être nos ancêtres par rapport à leurs contemporains. Donc ça, c'est vraiment la bonne version de la question. Et la réponse n'est pas immédiate. Parce que quand on raconte des histoires, finalement, on donne des informations à ses concurrents. Et ça a l'air d'être une stratégie perdante. Ça a l'air absurde. Donc tout le monde dit, les gens, oui, le langage, c'est l'échange d'informations, c'est bien pour le collectif. Oui, très bien, mais c'est au détriment de celui qui donne les informations. Donc ça devrait, d'ailleurs, les animaux, ils ne font pas ça. Pour l'essentiel. Ils font ça au sein de la famille. Les fourmis, les abeilles font ça très bien, au sein de la famille, mais pas en dehors de la famille. On ne va pas commencer à donner des informations à ses concurrents. Et les humains ne font que ça. Ils vont parler à qui veut bien les entendre. C'est même, d'ailleurs, le langage a évolué pour les parleurs. Alors, on est à front renversé. Ça devient absurde. Le langage a évolué pour les bavards. En gros, on a des oreilles de chimpanzés et un système auditif de chimpanzés, mais on a un pharynx d'êtres humains qui est descendu, qui nous expose au risque d'avaler de travers et de mourir. Si vous regardez les statistiques, ce n'est pas un risque. Voilà, c'est un risque significatif. Et donc, voilà, l'idée, c'est que pourquoi on raconte des histoires? Et ma réponse, elle est. Voilà, il faut comprendre que le contexte d'évolution de l'espèce humaine est un peu singulier. Alors, je ne voudrais pas dire qu'on est une espèce remarquable. Si, on est une espèce remarquable, mais beaucoup d'autres espèces sont remarquables. Hein. À un point, bon, regardez les oiseaux du paradis. Enfin, il faut, voilà. Quand je dis que l'être humain est remarquable, parmi d'autres, mais il a une singularité. Je fais comme l'enfant qui contraste. Vous vous souvenez, le chien, le chat. Je contraste l'être humain avec les autres espèces et il y a des différences qualitatives. Le langage en est une. Et le fait de raconter des histoires systématiquement sur les anomalies en est une. Et donc, la question est pourquoi on fait ça? Et le contexte évolutif de notre espèce est très particulier. Ça a été noté, là aussi, par très peu de chercheurs en évolution, mais il y en a, et des gens connus. C'est qu'à un moment de notre évolution, on a inventé les armes. Et que ça d'un point de vue darwinien, ça chamboule tout. Ouais, vraiment. C'est-à-dire qu'avec une arme, tout le monde peut tuer tout le monde sans risque. Donc en fait, la loi du chimpanzé commun, c'est la loi du plus fort. Hein. Il faut pas. C'est vraiment ça, le vrai fonctionnement. Chez les humains, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas la loi du plus fort. Il suffit d'avoir le dos tourné et celui qui fait la moitié de notre taille, il peut nous occire avec un bâton pointu ou il attend que je dorme et avec une bonne pierre. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là, on a eu une inversion des hiérarchies, ce qui fait que l'être humain s'est mis à se chercher des amis pour se protéger contre ce risque. Donc, en fait, le pire risque pour un être humain, c'est l'autre être humain, pas forcément l'ennemi, mais ça peut être l'ami qui est jaloux. Et donc pour ça, la meilleure contre-mesure, c'est comme dans l'histoire, quand il y a eu, par exemple, l'introduction des poisons, l'introduction d'armes qui permettent de tuer sans risque, eh bien, la seule contre-mesure, c'est le renseignement. Et donc, ce qu'on fait avec le langage, c'est même pas du renseignement, c'est de prouver qu'on a les moyens d'avoir du renseignement. Donc on fait de la pub. Et on n'arrête pas de signaler des anomalies totalement futiles. Pour dire, moi je suis au courant de tout. Prends-moi comme ami parce que je suis une assurance vie. Contre qui? Contre ceux qui vont te prendre en embuscade ou te faire un coup en traître. Et voilà, notre espèce se résume quasiment à ça. C'est-à-dire que voyez qu'on est, on a fait un long chemin là. On est
Ouais.
allé très très vite. Hein. Je suis désolé, je vous donne le résultat d'années de travail. Moi, j'ai vraiment galéré pour tomber sur cette solution. Maintenant, elle me semble être correcte. On n'est jamais sûr en science qu'on est tombé sur la solution correcte. En tout cas, toutes les autres que j'avais évoquées avant étaient incorrectes. C'est-à-dire que quand je les simulais en machine, ça ne marchait pas. Voilà. Et combien de fois j'ai regardé, fixé des courbes en disant « Oui, tu vas
Ouais.
monter », et la courbe descendait. C'est absolument terrible. C'est terrible enfin, les heures, les semaines, les mois à galérer comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve un modèle qui a l'avantage d'être cohérent en interne. Voilà, ça. Et celui que je vous présente sur l'histoire des armes, etc., il a au moins cet intérêt d'être cohérent en interne et d'être compatible avec la théorie de l'évolution.
OK.
Et dès que vous enlevez l'avantage collectif dans la théorie de l'évolution, parce qu'il n'existe pas dans la théorie darwinienne, hein, c'est une invention de vulgarisateur, vous enlevez l'avantage collectif. À ce moment-là, et vous dites, mais pourquoi les gens font des anomalies? Pourquoi ça les aide? Ben, c'est de la pub. C'est un signal social, parmi d'autres signaux sociaux. Voilà. Et voilà
OK.
pourquoi, maintenant, depuis quelques années, je me focalise sur les signaux sociaux, parce que c'est un peu les mêmes outils théoriques. Et je m'aperçois qu'on est une espèce. Alors, on n'est pas la seule à faire des signaux sociaux. Il y a quand même. Ben, j'ai parlé des oiseaux tout à l'heure. Les oiseaux, ils chantent, c'est du signal social. Hein, et ils font beaucoup de signaux sociaux, souvent très très chers, mais nous aussi. Et il n'y a pas que les. Et alors, il y a certains signaux sociaux qui sont culturels, qui sont extrêmement coûteux. Et ils sont ridicules parce que tout le monde finit par les adopter. Je vais vous donner un exemple. Alors, je pourrais prendre des exemples terribles comme les mutilations sexuelles. L'une d'elles, c'est l'excision. Enfin, je ne veux pas trop parler de ça parce que c'est tellement terrible. Et puis surtout, ça touche, c'est un peu touchy. Hein. On a vu un exemple récent sur France Inter récemment. Je vais parler de quelque chose qui est révolu, qui est comment on appelle ça, le bandage des pieds chez les Chinois. Pendant des siècles, alors quand je dis pendant des siècles, il faut mesurer ce que ça veut dire. C'est quasiment un millénaire. Pendant un millénaire, on a bandé les pieds des petites filles pour qu'elles ne grandissent pas, pour qu'elles aient des tout petits pieds. C'est terrible, c'est une torture. Mais en revanche, une fille qui n'avait pas été traitée de cette manière-là, d'une certaine façon, n'était pas mariable. On pourrait dire, bon, mais très bien, ça distingue, comme beaucoup d'autres signaux sociaux, ça va distinguer ceux qui peuvent se le permettre de ceux qui ne peuvent pas. Par exemple, si les jeunes filles doivent travailler au champ, si on les mutile les pieds, ça va poser des problèmes. Et donc, on pourrait penser qu'à certains moments, les agriculteurs, ça permet de distinguer ceux qui travaillaient de leurs mains et ceux qui étaient assez riches pour. Voilà. Donc, ça, c'est un peu une façon, ça, c'est un signal social typique. Ça permet de distinguer ceux qui peuvent se le permettre, ceux qui ne peuvent pas.
D'accord.
Voilà. C'est comme maintenant, ceux qui achètent des grosses voitures. Ou, j'avais regardé encore le tchador, par exemple, le tchador iranien, idéalement, vous ne l'attachez pas, vous le tenez avec la main. Donc, si vous passez votre temps à tenir votre tchador avec la main, vous ne pouvez pas avoir un travail manuel. Voilà.
OK.
Ou pour prendre un exemple, allez, j'adore multiplier les exemples, vous portez une cravate, c'est aussi un signal social. Vous avez une cravate, une chemise blanche. Moi, je me souviens de mon père qui avait une cravate systématiquement. Et dès qu'il devait faire un effort, je le voyais en train de déboutonner, dégrafer,
Oui, ouais.
écarter la cravate.
OK,
Il
ouais.
est impossible de faire un effort avec une cravate.
C'est vrai.
Il est impossible de travailler manuellement sans tacher sa chemise blanche. Donc, vous voyez que c'est coûteux pour les gens qui veulent tricher, donc qui sont travailleurs manuels, qui veulent. Voilà, donc ce n'est pas possible. Et en revanche, si vous travaillez dans un bureau, bah, ça ne vous coûte pas grand-chose de mettre une cravate. C'est un signal social. Alors, revenons au bandage des pieds. Ça serait la fin de l'histoire si ça permettait de distinguer. Mais ce qui m'a intéressé, et donc ça, c'est des travaux très récents que j'ai fait avec un doctorant, un ex-doctorant, maintenant il est chercheur, qui est Julien Lipanis. On a travaillé sur des signaux sociaux qui devenaient des normes. C'est-à-dire qu'on a un petit peu regardé cette histoire de bandage des pieds. Et à certains moments, c'était 96% de la population qui avait les enfants, enfin les petites filles avaient les pieds bandés. Ça fait froid dans le dos, hein, c'est terrible. Mais certains leur cassaient même les phalanges des pieds pour que ça soit vraiment petit. Et 96%, c'est-à-dire que ça devient une norme. Donc, du coup, on ne peut plus distinguer ceux qui font le signal de ceux qui ne le font pas, puisque tout le monde envoie le signal.
Oui.
Et c'est très coûteux. Mais ce qu'il faut comprendre... Alors, on a quelque chose d'absurde. Il y a beaucoup de situations comme ça, dans la... des signaux sociaux, qui sont idiots. C'est des normes coûteuses qui ne servent à rien. Alors, pourquoi ? Et maintenant, c'est ce qu'on a compris et qu'on a simulé. On a fait les équations. Donc, la totale, on peut dire qu'on a, d'une certaine manière, compris le phénomène. C'est que... si vous ne le faites pas, tout le monde vous tombe dessus. Oh, cette fille-là, elle n'a même pas les pieds bandés, quelle horreur.
Ouais.
Au point, ou alors si vous essayez de travailler dans une banque et que vous n'avez pas de cravate, tout le monde va vous tomber dessus. Ouais. Oh, t'as vu un tel, il est venu, il n'a pas de cravate. Et en fait, la norme vient du fait de cette police qui est faite par tout le monde pour ostraciser la personne qui n'envoie pas le signal. Alors très bien, si cette police existe, on se dit, bah, bah, tout le monde a intérêt à envoyer le signal, sinon tout le monde me tombe dessus. Voilà. Je ne sais pas, à essayer d'avoir une chemise avec une tache. Bah, mais tout le monde va vous tomber dessus.
Mm.
Ah, t'as vu un tel, oh, t'as vu ta tache devant tout le monde bien fort. Mais pourquoi... Alors, question suivante, et c'est la question difficile, mais pourquoi les gens font ça ? Pourquoi ils font la police ? C'est quoi cette histoire ? Et l'idée, c'est que... Et c'est l'hypothèse qu'on a faite et qui a permis de résoudre cette énigme, c'est de dire, mais ceux qui font la police, c'est un signal social à l'ordre d'eux. C'est-à-dire, ils disent, regardez comme moi je suis exemplaire.
Ah.
Et je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle. Et donc, rien qu'avec cette idée d'un signal social coûteux et d'un signal... Alors, le signal social d'ordre 2 explique le coût. C'est-à-dire qu'au début, le bandage des pieds, il n'a pas commencé comme ça. On a dit, on regarde, cette fille a les pieds petits, etc. Et puis, il y en a qui ont commencé à diminuer les pieds. Et ça a été progressif. Et à la fin, c'était une mutilation atroce. Et on arrive à une norme à laquelle tout le monde se soumet, qui est absurde d'un point de vue collectif. Et qui est une norme, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se trouve plus mal qu'avant. Voilà. Et si on regarde bien la société, alors c'est plus facile chez les autres, hein, quand on va étudier les sociétés qui nous paraissent exotiques, on dit, bah, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont stupides, vous avez vu ce qui s'impose, mais il ne faudrait pas avoir un miroir, parce que dans notre société, on s'impose énormément de choses. Et moi, je suis du monde académique, je pourrais aussi signaler le fait qu'on passe des thèses, des habilitations, des choses comme ça. Enfin, on s'impose si vous saviez ce qu'on s'impose, pour soumettre un papier, tout ce qu'il faut faire, etc. C'est pareil, c'est des normes, et celui qui ne le fait pas, il se fait ostraciser, parce que ceux qui ostracisent montrent à quel point ils sont exemplaires eux-mêmes.
D'ailleurs, j'ai même l'impression que moins un comportement est répandu, moins il y a ce côté ostracisme, et que à l'inverse, plus c'est un comportement qui est commun et accepté, et plus du coup il y a cette virulence en cas de non-respect de cette norme, alors que normalement on est censé voir plutôt l'inverse, c'est-à-dire que moins un comportement est commun, plus il devrait avoir son importance, et plus il est commun, moins ça devrait être quelque chose d'important.
Alors oui, alors là, il faut rentrer dans des questions de sociologie que je ne maîtrise pas. C'est la taille des groupes, notamment. Il y a certains signaux sociaux. Alors là, j'ai pris des exemples qui sont généralisés dans la population. Il y a des signaux sociaux qui sont identitaires pour un groupe.
Mmh.
Hein, si vous aimez le métal, il y a des signes associés qui sont ostentatoires et qui finissent par être coûteux, très coûteux. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est lié à la taille des groupes ou à l'envie du groupe de se démarquer, ça j'ai pas fait de modèle de ça. c'est une bonne remarque, hein.
Mais ça, du coup, comment est-ce qu'on peut le modéliser en informatique, parce que du coup là on parle quand même de comportements humains, d'interactions humaines qui sont plutôt complexes. Comment est-ce qu'on peut, alors, d'un côté modéliser ce genre de choses et de l'autre côté arriver à une équation? Comment on fait le passage?
Voilà, ma technique à moi, c'est d'abord de commencer par faire le modèle informatique.
D'accord.
Et après de faire l'équation.
Okay.
Et mon collègue, là, Julien Lipanis, lui, fait l'inverse. Il est beaucoup plus à l'aise à faire les mathématiques d'abord et voir si ça se vérifie dans la simulation informatique. Donc, informatiquement, on prend une simulation avec des petits agents. Alors, c'est des agents très, très métaphoriques, hein. C'est un peu comme les neurones tout à l'heure, hein. Un agent, c'est un emplacement mémoire dans la machine, mais un agent, on lui donne des comportements, donc il peut avoir ce comportement, et il y a des coûts associés. Donc, il y a un coût à envoyer le signal, il y a un coût à faire remarquer qu'un autre n'a pas le signal parmi ceux qu'on a rencontrés. Donc, enfin, on fait des rencontres, et alors, c'est un ménage à trois, hein. Il y a celui qui a envie de montrer qu'il est un bon soldat, il y a celui à qui il s'adresse, donc il a envie de devenir son ami, et il y a le bouc émissaire, celui qu'on va montrer du doigt. Donc c'est un jeu à trois. Et donc informatiquement, il n'y a pas de problème, on prend un groupe, une population d'individus, on les fait se rencontrer, on les refait jouer ce jeu avec les coûts associés. Et après, il y a des bénéfices qui sont liés à l'aspect social, c'est-à-dire qui va être ami avec qui. Sachant que les gens vont se... On suppose que c'est un critère désiré que d'avoir la qualité qui permet d'envoyer le signal moins cher. Ou, voilà. Donc, il y a ceux qui peuvent se le permettre ou pas. Et donc, en fait, c'est ce qui nous a vraiment amusés, c'est de dire qu'on voit qu'un signal qui, au début, n'était pas très coûteux parce qu'on n'allait pas dans les intensités extrêmes, eh bien, à cause de cette surenchère et du fait de pas vouloir, le dernier qui se fait ostraciser, il monte un cran. Du coup, les meilleurs, ils ont besoin de se démarquer. Ils vont se la péter un petit peu. Ils vont envoyer plus fort. Du coup, ils ostracisent les autres. Donc, en fait, les autres montent. Et on a voilà. Ça, c'est l'aspect informatique. Et pour l'aspect mathématique, on fait ce qu'on appelle la théorie des jeux, extrêmement basique. On écrit des équations où on regarde quel est le bénéfice à l'équilibre. Et on fait des dérivés. Enfin, voilà, c'est des mathématiques de... Ouais, c'est des mathématiques de terminale, on va dire. C'est pas chercher beaucoup plus loin. Mais on arrive. Le problème, c'est pas de résoudre l'aspect mathématique, c'est de poser le problème, voilà, de la bonne façon. Et ça peut prendre des mois. Mais voilà, une fois qu'on a la solution, on se dit, oh, c'était tellement simple.
Mais c'est souvent ça. Hein. Voilà. Ok, donc là, on arrive vers la fin de notre entretien. À la fin, j'aime bien parler aussi un petit peu de ce que fait l'invité, donc des livres que vous avez écrits. Vous en avez écrit pas mal, dont un qui s'appelle Les origines du langage, donc qui date d'il y a quelques années maintenant. Ça reprend un petit peu les points dont on a parlé avant. Vous développez un petit peu ce qu'on vient de dire dans ce livre ?
Oui, alors l'ambition de... Alors, y a plusieurs livres. Il y en a un qui s'appelle Aux origines du langage. Oui. Celui-là. Et celui-là, j'ai vraiment fait une sorte d'anatomie fonctionnelle du langage. C'est-à-dire, j'ai essayé de décortiquer le langage aux différents niveaux en essayant de montrer ce que font rarement les linguistes, c'est à quoi ça sert d'un point de vue biologique. Mmh. Voilà. Donc ça, je me suis vraiment... Et ça m'a fait progresser beaucoup d'écrire ce livre. Mais j'avais beaucoup travaillé en linguistique, mais alors avec cette idée fonctionnelle, c'est-à-dire pourquoi on a une phonologie, pourquoi on a une syntaxe. La syntaxe a été merveilleusement étudiée par les linguistes. Mais rarement sous un angle fonctionnel. À quoi ça sert? Pourquoi c'est là? Pareil pour l'expression du sens, ce qu'on appelle la sémantique. Pourquoi il y a des prédicats, par exemple? Pourquoi l'espèce humaine est à ce point obligée de faire des prédicats? Vous avez peut-être vu ce film, comment ça s'appelait? Là où il y a les pieuvres qui arrivent de l'espace, rencontre, non, First Contact, quelque chose comme ça.
Premier contact.
Premier contact, voilà, c'est ça. Et j'ai adoré ce film, au moins au début. La fin est un peu bizarre, oui, pour différentes raisons, mais pour moi, mais je pense que c'est quand même un très bon film. Mais là où j'étais un peu déçu, c'est quand j'ai vu que, alors je ne vais pas divulgager, mais le langage des pieuvres de l'espace utilise des prédicats. Et ça m'a dit, mais non, mais ça c'est un truc purement humain. Hein. C'est-à-dire que si, voilà, il n'est même pas sûr que Néandertal, si jamais on le clone un jour, ce que je ne souhaite pas, il n'est même pas sûr qu'il était aussi intelligent que nous. Il avait un mode de communication, mais peut-être pas des prédicats. Et peut-être qu'il avait autre chose qu'on ne comprend pas, nous. Voilà. Donc, voilà. Donc, anatomie fonctionnelle du langage. Et bien sûr, ce que j'ai raconté sur l'aspect pertinence, l'aspect, le fait de raconter des histoires, d'argumenter, etc. Et aller à la fin jusqu'à la fonction biologique de tout ça, qui est de se faire des amis sur les bons critères.
Ok, voilà. Donc on va mettre ce livre en description. Si jamais il y en a qui, après notre entretien, voudraient en apprendre un petit peu plus sur ce dont on vient de parler, est-ce que vous conseilleriez certains livres ?
Alors, on a parlé de beaucoup de sujets.
Oui, c'est vrai.
Sur ce que j'ai raconté sur la simplicité, il y a un livre, mais il est peut-être d'un abord un peu plus difficile, qui s'appelle « La pertinence et ses origines cognitives ».
D'accord.
Alors là, il y a quelques équations dans le livre. Donc, mais je balaye quand même beaucoup de sujets, un peu comme ce qu'on vient de faire. Et sinon, alors après, il y a un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire avec deux co-auteurs, qui sont Cédric Gaucherel et Pierre-Henri Gouillon, qui
Oui.
s'appelle Le fil de la vie. Pierre-Henri Gouillon, qui est quelqu'un qui parle extrêmement bien dans le microphone.
Qu'on
Donc,
a reçu aussi sur
vous
la
l'avez
chaîne.
reçu, alors merveilleux. Donc en fait, on a ensemble écrit ce livre sur le fil de la vie, qui est une vision informationnelle de l'évolution. C'est-à-dire que c'est un peu Richard Dawkins sous stéroïdes. Voilà.
Ok.
On s'est plié à ça, au risque de choquer un petit peu. Hein, c'est-à-dire que, alors on parlait de côté immatériel du vivant. Alors c'est pas du tout, on reste matérialiste, mais l'information a un aspect immatériel, même si elle s'inscrit à chaque moment dans la matière. Par exemple, nos gènes, alors on n'a pas pris que les gènes, hein, on a pris les écosystèmes, Mais ce qui nous survit à long terme, c'est de l'information. C'est pas des molécules. Voilà. Donc ça, c'est ce livre, Le fil de la vie. Et puis sinon, j'ai fait effectivement le livre sur l'intelligence artificielle où j'aborde certains sujets qu'on a abordés tout à l'heure.
Oui, des intelligences très
Voilà,
artificielles
des
qui est...
intelligences très artificielles, c'était pour mettre l'accent sur la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Voilà,
Ok.
c'est ça l'idée.
Ça marche. Bon, on mettra en tout cas tous ces livres en description. Et puis, du coup, Jean-Louis, je vous remercie beaucoup pour cet entretien qui était très intéressant.
Merci à vous, merci pour cette belle opportunité de parler de tout ça. C'est rare d'avoir cette chance pour un chercheur. Merci.